الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الليلة هي ليلة 19 من شهر رجب عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس الثالث في كتاب الأصول الثلاثة للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 17 mai 2014 et ce soir nous entrons dans le troisième cours du livre Les Trois Fondements de l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala. La semaine dernière, nous avons parlé de la basmala, bismillahirrahmanirrahim. Nous avons parlé du sens de cette parole, de son importance. Nous avons parlé de l'obligation que le musulman a de rechercher la science religieuse, qui se résume sous trois points. La connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la connaissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion d'Allah, azza wa jal. Nous avons vu également quelles sont les causes de l'égarement. Une science mauvaise, une compréhension mauvaise, ou une intention mauvaise. Et en ce qui concerne une science mauvaise, Al-Sheikh Sulayman ibn Salim Allah al-Ruhayli, qu'Allah le préserve, celui qui a enseigné ce livre, a dit: la science mauvaise, c'est-à-dire quelqu'un qui parle dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science, sans connaissance basée sur le Coran et la Sunna. Une telle personne ne peut que s'égarer et s'éloigner du droit chemin d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première chose. Ou bien, une personne détient une science qui ne lui est pas utile. Elle croira donc qu'elle est savante alors qu'en vérité elle est ignorante. Cheikh Sulayman ibn Salim Allah al-Rahayli hafidhahullah a dit: أوساء علمه سواء كان جاهلا فتكلم في المسائل بجهل. Lorsqu'il nous parle de la personne qui a une mauvaise science, il nous dit: ça peut être une personne ignorante qui entre dans les questions religieuses par ignorance. أو كان عالما علما لا ينفع فكان جاهلا وهو يظن أنه عالم. Ou bien une personne qui est savante, c'est-à-dire qu'elle détient une connaissance, mais cette connaissance ne lui est pas utile. En vérité, elle est donc ignorante, tout en pensant être savante. Comme certaines personnes prétentieuses de cette époque, qui écrivent des livres et font sortir des audios, des cassettes. وَإِذَا نَظَرْتَ فِي كَلَامِهِمْ وَجَدْتَهُ جَهْلًا. Et lorsque tu regardes leurs paroles, tu trouves dans ces dernières l'ignorance. وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ أَئِمَّةٌ. Et ces personnes pensent être des imams. وَهَذَا هُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et c'est cette science et cette ignorance qui est appelée chez les savants l'ignorance composée. C'est-à-dire que, comme on va le voir, inshallah, l'ignorance se divise en deux. Il y a al-jahl al-basit, la simple ignorance. C'est une personne qui est ignorante, elle sait qu'elle est ignorante. Et il y a al-jahl al-murakkab, l'ignorance composée. C'est une personne qui est ignorante, mais qui croit être savante. Son ignorance est composée de deux choses: le fait qu'elle n'a pas de connaissances, et le fait qu'elle croit être savante. Donc voici ce qui est voulu par la parole du cheikh, celui qui a une mauvaise science.
Deuxième point concernant le dars de la semaine dernière,
Nous avons parlé de deux questions. La première, la question du taqlid, c'est-à-dire est-ce qu'il est permis à un musulman d'apprendre ses bases fondamentales de la religion simplement en se basant sur le suivi aveugle de quelqu'un? La réponse, c'est interdit. C'est interdit. Tout musulman doit connaître ces choses-là, qui sont les bases de sa religion, qui sont en relation avec sa croyance, avec les preuves, non pas par simple suivi. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que les savants entendent par là? Ils entendent par là une personne qui entend et qui répète, et qui ne sait pas d'où cette croyance vient. Est-ce qu'elle est vraiment celle qu'Allah Azzawajal nous a ordonné d'avoir dans le Coran ou non? Et ainsi de suite. Ça, c'est interdit. Allah Azzawajal a dit: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Surat al-A'raf. Suivez ce qui est descendu de la part de votre Seigneur vers vous et ne suivez pas les alliés en dehors de lui, mais vous vous souvenez très peu. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit: ma unzila ilayna al-Qur'an wa sunnah. Ce qui a été descendu vers nous, c'est le Qur'an et la sunnah. Ainsi Allah Azza wa Jal nous ordonne de façon obligatoire de prendre notre religion du Coran et de la Sunna. Il y a une deuxième question. Quel est le jugement de la personne qui a appris sa croyance en se basant sur ce dont nous parlons, en se basant sur le suivi aveugle? La réponse, il y a deux situations. Nous avons une personne qui suit aveuglément quelqu'un dans le domaine de la croyance. Cette personne n'a pas la croyance, c'est-à-dire qu'elle pose les questions, ou bien elle entend, elle répète, mais sans avoir véritablement une croyance dans le cœur. C'est de cette personne que le prophète parle, sallallahu alayhi wa sallam, dans la tombe, quand on lui dira: qui est Allah? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra: Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. J'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai répété. Voyez que ce jour-là, le simple fait qu'il ait répété ne lui sera d'aucune utilité. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il ait cette croyance dans le cœur. Donc ici, son suivi ne lui servira à rien. Deuxièmement, il y a une personne qui prend ses bases, qui prend sa aqid à sa croyance, en se basant, comme nous le disons, sur le suivi aveugle, ça c'est interdit. Mais le résultat, c'est que cette personne a la véritable croyance. Sa croyance sera acceptée. Elle lui sera utile le jour des questions dans la tombe. Mais elle sera quand même dans le péché parce qu'elle n'apprend pas sa croyance avec les preuves du Coran et de la Sunna. Est-ce que c'est clair? Le résumé de tout ça, c'est que ces choses-là qui sont les bases de la religion, nous devons les prendre du Coran et de la Sunna, nous devons les étudier avec clairvoyance. Et on ne doit pas se baser sur le fait que telle et telle personne a dit, alors je fais. Voilà le résultat qui évolue. Le Cheikh a dit, il est toujours en train de parler des quatre points essentiels que nous avons l'obligation de connaître. Al-Thaniya, العمل به. La deuxième chose qu'il est obligatoire de connaître, c'est que nous devons mettre en pratique cette science dont nous avons parlé dans le premier point, qui est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. C'est-à-dire que toute personne qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses attributs, par sa seigneurie, par son droit à l'adoration, toute personne qui connaît le prophète alayhi salatu wassalam, elle sait que c'est l'envoyé d'Allah, c'est le prophète et messager d'Allah azza wa jal. Elle sait que toutes ses paroles sont la vérité. Elle sait que nous avons l'obligation de le suivre, que nous devons de façon obligatoire nous conformer à sa sunna. Toute personne qui connaît les bases de sa religion, la prière, l'aumône, le jeûne et toutes les obligations religieuses que la personne se doit de connaître et de mettre en pratique, Ça ne suffit pas de connaître toutes ces choses, il faut le deuxième point qui est la mise en pratique. Et c'est une chose très importante. Le musulman, quand il étudie sa religion, quel est son but? Si ce n'est mettre en pratique ce qu'il apprend pour pouvoir trouver un Seigneur satisfait de lui le jour du jugement dernier. Combien sont ceux qui apprennent la science avec une mauvaise intention et qui ensuite ne mettent pas en pratique leur connaissance? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce mal. L'apprentissage de la science n'est pas une mode. On n'apprend pas la science pour faire comme telle ou telle personne. On n'étudie pas la religion d'Allah Azza wa Jal pour rivaliser avec les savants, polémiquer avec les ignorants. On n'étudie pas la religion d'Allah Azza wa Jal pour être célèbre. On l'étudie pour se rapprocher davantage d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour adorer Allah Azza wa Jal en connaissant ce qu'Allah demande, en connaissant ce qu'Allah interdit. Et c'est pour ça que le musulman chaque jour apprend sa religion. Il apprend sa religion pour connaître encore plus Allah et pour mettre en pratique encore plus les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc deux choses qui sont inséparables, la science et les actes. Vérifiez un peu ça dans les trois questions que l'on va poser à la personne enterrée. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Man rabbuk wa man nabiyuk ou wa ma dinuk وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ Quel est ton Seigneur? Ça c'est la science, la croyance. Qu'est-ce que tu connais au sujet d'Allah? Quelle connaissance tu as au sujet de ton Seigneur? Ça c'est la connaissance. وما دينك? Et quelle est ta religion? C'est-à-dire ta pratique. Donc ici Allah tabaraka le prophète pardon, sallallahu alayhi wa sallam a cité la connaissance et ensuite la mise en pratique de cette connaissance. Et ça, c'est une chose que l'on retrouve dans plusieurs versets et dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, une des premières choses sur lesquelles le serviteur d'Allah sera interrogé, alors qu'il se tiendra debout le jour de la résurrection, c'est sa science. Qu'est-ce qu'il a mis en pratique comme connaissance qu'il avait? C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adressera à tous ses serviteurs pour leur poser quatre questions, parmi lesquelles: qu'est-ce que tu as fait de la science que tu avais? Tu savais que telle chose était interdite, est-ce que tu l'as délaissée? Tu savais que telle chose était obligatoire, est-ce que tu l'as mise en pratique? Celui qui va s'en sortir est celui qui dans ce bas monde avait la connaissance et mettait en pratique cette dernière. Tout cela bien sûr dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith, il est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: «Lan tazula qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'a». Les pas du serviteur ne pourront se déplacer le jour de la résurrection qu'après être interrogés sur quatre choses. Il ne pourra pas avancer le jour du jugement dernier. Il ne pourra pas quitter sa place tant qu'il ne répondra pas à ces quatre questions ou tant qu'il n'est pas interrogé sur ces quatre points. On l'interrogera sur sa vie, qu'est-ce qu'il en a fait? Sa jeunesse, qu'est-ce qu'il en a fait? Son argent, d'où est-ce qu'il l'a eu? Et qu'est-ce qu'il en a fait? Et enfin, sa science, est-ce qu'il l'a mise en pratique? Ce sont ces quatre questions, on peut dire même cinq, car quand il parle de l'argent, il y a deux questions, sur lesquelles chaque personne sera interrogée, chaque individu sera interrogé, et alors il aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui commet, ou celui qui a des manques dans la mise en pratique de la connaissance qu'il a, cette connaissance ne sera que mauvaise pour lui. Elle ne sera qu'un argument contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: «Wal Qur'an hujjatun laka aw alayk». Le Qur'an est un argument en ta faveur ou en ta défaveur. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends de ta religion, que tu puises dans le Qur'an comme chose obligatoire ou bien interdite, si tu les mets en pratique, ce Coran sera un argument en ta faveur. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a même cité que le Coran intercédera en la faveur de ceux qui le récitaient. Bien sûr qu'il le mettait en pratique. Par contre, si l'individu ne le met pas en pratique, il en lit les textes, les versets, mais il ne les met pas en pratique, alors ces textes, ces versets seront un argument contre lui. Et il sera dans la perte évidente. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et donc, comme nous l'avons dit, il ne va faire que augmenter les arguments contre lui le jour où il rencontrera Allah Azza wa Jal. Et nous avons dans ce domaine, dans le domaine de la science et de sa mise en pratique, deux extrémités et un juste milieu. La première extrême, ce sont les gens qui cherchent à adorer Allah, à se rapprocher de lui, à mettre en pratique des actes sans connaissance. Ces gens-là sont égarés. La deuxième extrême, ce sont les gens qui ont la véritable connaissance, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ces gens-là sont égarés. Le juste milieu, ce sont ceux qui ont la connaissance, qu'ils mettent en pratique. Où est-ce qu'on retrouve ces trois catégories de personnes? On les retrouve dans une sourate que vous tous ici connaissez. Sourate Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ihdina sirat al-mustaqim » ce qui veut dire « Guide-nous dans le droit chemin ». Allah va nous détailler, va nous expliquer quel est ce droit chemin. « Sirat al-ladhina an'amta alayhim » le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs. Quelles sont les faveurs d'Allah si ce n'est la connaissance qui est mise en pratique? Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala explique ce verset dans Sourate An-Nisa, les femmes. Il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ et quiconque obéit à Allah et à son messager فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ voici ceux qui seront réunis avec ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا et quelle bonne compagnie que ces gens-là. Les prophètes, qui sont-ils? Ils sont les ceux qui ont la science et qui ont mis en pratique cette dernière. Pareil pour les pieux, pareil pour les véridiques, pareil pour les martyrs, et ainsi de suite. Donc, Allah Azza wa Jal nous définit ce droit chemin comme étant le chemin de la science et de la mise en pratique. Ensuite, il dit غير المغضوب عليهم non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Toute personne ayant une connaissance qu'elle ne met pas en pratique. Toute personne qui connaît une obligation religieuse et qui ne la met pas en pratique, ou bien une interdiction et elle ne la délaisse pas. Elle a encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans le moindre doute, à la tête de ces gens-là, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam à ses compagnons qui l'ont interrogé sur ces versets, qui? Les juifs. Car les juifs connaissent le livre mais ne le mettent pas en pratique. Ensuite, et non pas celui des égarés. Les égarés, ce sont ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah azza wa jal, mais qui n'ont pas de connaissances pour le faire. Donc ils sont dans l'erreur, dans l'innovation, dans l'égarement. Qui sont à la tête de ces gens-là? Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, les chrétiens qui ont cherché à se rapprocher d'Allah azza wa jal en inventant des choses qui n'ont pas été légiférées par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi certains pieux prédécesseurs ont dit dans notre communauté, celui parmi les savants qui ne met pas en pratique sa science aura un point de ressemblance avec les juifs. Et celui qui cherche à adorer Allah sans connaissance aura un point de ressemblance avec les chrétiens. Donc le juste milieu, c'est la connaissance et sa mise en pratique. Et c'est ce qui nous est demandé dans la religion d'Allah. Et la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est qu'une religion de connaissance et de mise en pratique. Cette religion est parfaite et complète. Elle est parfaite dans tous ses aspects et elle est complète également. Elle n'a besoin d'aucune diminution, tout comme elle n'a aucunement besoin de rajout, car elle vient d'Allah, celui qui est parfait lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons l'obligation de mettre en pratique la science que l'on connaît. Ainsi, toute personne qui apprend une chose d'Allah tabaraka wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam doit la mettre en pratique. Ici, nous avons un des pieux prédécesseurs qui s'appelle Abu Abdurrahman As-Sulami, rahimahullah, qui dit حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. Ceux qui nous enseignaient le Coran nous ont enseigné une chose. Uthman ibn Affan ou Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhuma. Et ces derniers sont Uthman et Abdullah ibn Mas'ud, parmi les meilleurs des compagnons. أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. Ils disent que quand leur professeur leur enseignait le Coran, il leur enseignait 10 versets, ensuite il s'arrêtait. Il leur enseignait le sens de ces versets, il les mettait en pratique et ensuite il faisait la même chose avec 10 autres versets et ainsi de suite, jusqu'à apprendre le Coran. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains compagnons ne mémorisaient pas le Coran entièrement. Pourquoi ? Parce que eux, leur but n'était pas simplement d'amasser les connaissances sans les mettre en pratique. Leur but était de prendre des connaissances et de les mettre en pratique. De les mettre en pratique. Et nous avons vu le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le jour du jugement dernier, aucune personne ne pourra se déplacer si ce n'est après avoir été interrogé au sujet de ces quatre choses. Également, l'imam muslim rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en ces termes. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, je cherche ta protection contre une science qui n'est pas utile. Donc tu vois ici que ce qui t'est demandé au niveau de la science, c'est une science qui est utile. Quelle est la science qui n'est pas utile? Les savants l'ont défini, c'est la science que on ne met pas en pratique. Tout ce que tu apprends dans ta religion, que tu ne mets pas en pratique, c'est une science qui n'est pas utile pour toi. C'est une science qui va te causer du tort le jour où tu rencontreras Allah Azza wa Jal, puisque ce sont des arguments contre toi. Dans un autre hadith qui est rapporté dans les deux recueils de récits prophétiques authentiques de Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte une scène qu'il a pu voir le soir de l'ascension nocturne. Lorsqu'il a été élevé par Allah tabaraka wa ta'ala en compagnie de Jibril sur une monture que l'on appelle Al-Buraq, et il a été élevé au premier, deuxième, troisième, jusqu'en haut du septième ciel. Il a pu voir le paradis, l'enfer. Allah azza wa jalla s'est adressé à lui, il lui a légiféré les prières. Le prophète dit: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. أسأل الله العافية. Prophète عليه الصلاة والسلام dit: le soir de l'ascension nocturne, je suis passé près d'un peuple de gens qui étaient châtiés par le feu d'une manière bien particulière. J'ai dit, qui sont-ils, ô Djibril? Et Djibril m'a dit, ce sont les prêcheurs de ta communauté, ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Regardez, comment va être le devenir de celui qui prêche et qui ne met pas en pratique ce qu'il dit. À grande échelle et à petite échelle également, que ce soit le prêcheur, le savant, l'imam, ou bien toute personne qui appelle des gens à un bien, ou qui interdit à des gens un mal, et nous voyons cette personne délaisser ce bien et commettre ce mal. Voici le devenir de cette personne, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger de ce fléau, de cette maladie. Ainsi, toute personne qui entend un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam se doit de le mettre en pratique, ne doit pas polémiquer, ne doit pas essayer de trouver des excuses, des raisons ou changer ce qu'a dit le prophète. Je vous donne un exemple très clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plus d'une quinzaine de hadiths: laissez pousser vos barbes, a'ful liha, arkhul liha, Akrimul liha, wafirul liha. Et il l'a dit en employant plusieurs termes. Laissez pousser vos barbes. Je ne sais pas trop comment traduire. En tout cas, laissez pousser vos barbes. Honorez vos barbes. Laissez-les s'agrandir. Et dans plusieurs termes, il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui t'est demandé, toi, le musulman, quand tu entends cet ordre, toi qui aimes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toi qui es véridique avec Allah, toi qui veux rentrer au paradis et qui veux voir tes péchés pardonnés, c'est de ne pas polémiquer, de dire le prophète a dit, je dois faire. Le prophète a dit, je dois faire. Il n'est pas question ici de juger telle et telle personne. C'est un exemple et il y en a beaucoup d'autres. Et je suis peut-être le premier à voir des manquements dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est voulu ici, ce sont les principes de la religion que nous devons apprendre. Barakallahu fikum. Donc, lorsque le prophète nous donne un ordre, sallallahu alayhi wa sallam, il nous est demandé de le mettre en pratique. Il nous est demandé de le mettre en pratique. Car si le prophète était vivant, et il était devant toi ou devant moi, et il me dit, laisse-toi pousser la barbe. Je pense que toi et moi, nous sommes d'accord sur le fait que nous allons lui obéir, le mettre en pratique. Pourquoi quand il meurt, nous lui désobéissons? Si lui n'est plus là, Allah tabaraka wa ta'ala est là. Et je répète que c'est à titre d'exemple, et je cite cet exemple car le Cheikh Sulaiman al-Ruhayli qui explique ce livre a cité cet exemple. Donc, nous voyons l'importance de la mise en pratique de la science. Quel est le jugement de la mise en pratique de la science que l'on connaît? Ça dépend. Si la chose que nous avons apprise est une chose obligatoire, alors sa mise en pratique est obligatoire. Tu apprends que tu dois accomplir les 5 prières. C'est une science que tu as eue. Maintenant, tu dois, de façon obligatoire, mettre en pratique cette connaissance. Par contre, si c'est une chose qui est surérogatoire, une chose qui est recommandée, qui est aimée, à laquelle Allah nous a encouragés, mais il ne nous a pas demandé de le faire de façon obligatoire, à ce moment-là, ce qui nous est demandé, c'est de le mettre en pratique de façon recommandée. Mais la personne qui ne le met pas en pratique n'est pas condamnée, n'est pas dans le péché. Par exemple, la prière du Maghrib, c'est une obligation. Tu as appris que dans l'islam, on doit prier le Maghrib. Donc tu dois de façon obligatoire passer à l'acte. Ensuite, tu apprends que dans l'islam, il y a une sunna qui est de faire 2 rak'ah après la prière. Qu'est-ce que tu fais? Si tu le fais, tu es récompensé. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans le péché parce que ces 2 rak'ah ne sont pas obligatoires. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Pareil pour les choses qui sont interdites et celles qui sont détestables. Lorsque tu apprends qu'une chose est interdite, tu as l'obligation de délaisser cette chose. Lorsque tu apprends qu'une chose est détestable, on t'encourage à délaisser cette chose. Mais si tu ne la délaisses pas, tu n'es pas dans le péché. Mais ta foi n'est pas complète quand même. Parce que le meilleur, c'était de délaisser cette chose. Vous avez compris? Donc le jour du jugement dernier, la personne qui sera blâmée parce qu'elle n'a pas mis en pratique sa science, ça sera principalement la personne qui ne mettait pas en pratique la science relative aux choses qui sont obligatoires. Et peut-être après qu'elle sera aussi blâmée sur le reste. Allahu a'lam, c'est une chose qui relève d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit, الثالثة, الدعوة إليه. Troisième, exhorter les gens à cela. La traduction n'est pas vraiment correcte. Il sera mieux de dire, inviter les gens à cela, ou appeler les gens à cela. Ici, nous parlons de cette noble adoration qui est l'appel à Allah. Ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de prêcher, le fait de réformer, le fait de corriger l'erreur, d'orienter les gens vers le Coran, vers la Sunna, le fait de leur enseigner ce qui est bon et les encourager à le faire, de leur enseigner ce qui est mauvais afin de les mettre en garde contre cette chose. Le fait d'appeler Allah tabaraka wa ta'ala est un des actes les plus méritoires chez Allah. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers. Pour quelle raison si ce n'est? Pour appeler les gens à Allah. Donc les prophètes sont des prêcheurs. Et toute personne qui veut prêcher à l'islam et appeler à l'islam doit avoir à l'esprit qu'elle entreprend une chose parmi les choses les plus importantes dans la religion d'Allah, azza wa jal. Donc, toute personne n'est pas apte à le faire, car nous allons voir les conditions à remplir pour pouvoir prêcher Allah, appeler Allah, inviter les gens à Allah, parler de la religion d'Allah, vouloir transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui a une meilleure parole que celui qui invite les gens à Allah, fait de bonnes actions et dit: je fais partie des gens soumis, ceux qui sont pleinement soumis à Allah azza wa jalla. Méditez le verset. Qu'est-ce que cet individu fait? Il appelle les gens à Allah et il fait de bonnes actions. Il met en pratique ce à quoi il appelle. Il ne se contente pas d'appeler, de parler. Il met en pratique ce à quoi il appelle. Quelle parole meilleure que celle de celui qui invite les gens à Allah, fait de bonnes actions. Les bonnes actions, ce sont les actions auxquelles il invite les autres. Donc il est un exemple, il met en pratique ce à quoi il invite les gens. Tout cela dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc également le prêche, l'appel à Allah azza wa jal, a un lien très fort avec la science. Il ne peut pas se détacher de la science. Une personne qui souhaite appeler Allah azza wa jal, c'est une bonne chose. Cependant, elle doit respecter les conditions. Elle doit suivre le chemin y menant. Et personne n'interdit à un musulman de prêcher Allah. Ce qui est demandé à ce musulman qui veut prêcher Allah azza wa jal, c'est d'avoir les connaissances nécessaires pour le faire. Chers frères, celui qui appelle Allah tabaraka wa ta'ala est à l'image de quelqu'un qui vient signer pour Allah azza wa jal. Elle signe et elle dit: Allah a dit, Allah n'a pas dit. Allah aime, Allah n'aime pas. Allah veut, Allah ne veut pas. Un des pires péchés dans la religion d'Allah azza wa jal, c'est de parler dans la religion d'Allah sans connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne de transmettre ce message aux gens. Dit: en vérité, mon Seigneur m'a interdit de commettre les turpitudes, apparentes soient-elles ou cachées. وَالْإِثْمِ, les péchés. وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, la transgression, c'est-à-dire l'injustice envers les gens. وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, et que vous associez à Allah ce sur quoi on ne vous a pas révélé de preuve, de vouer le culte à un autre qu'Allah, sans argument justifiant cet acte. Et enfin il dit: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, et que vous ne dites sur Allah ce que vous ne connaissez pas. Certains savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal a cité toutes ces interdictions dans un ordre croissant. C'est-à-dire qu'en premier, on nous parle de la turpitude apparente, cachée, la fornication et les autres actes de turpitude, les péchés, l'injustice qui est encore un peu plus grave, ensuite l'association à Allah et à la fin de parler sur Allah sans science. Nous savons que le pire de péché, c'est le shirk, c'est l'association à Allah Azza wa Jal. Et les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal a cité le fait de parler sur lui sans connaissance après l'association parce que la cause principale qui a poussé les gens à associer Allah, qu'est-ce que c'est? C'est de parler dans la religion sans science. Et pareil, la cause principale qui a poussé les gens à commettre des innovations en croyant se rapprocher d'Allah, qu'est-ce que c'est? C'est de parler sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Une personne a une bonne intention, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Cette dernière se lève et parle d'Allah Azza wa Jal sans avoir étudié. Et cette personne ne parle pas une fois, plusieurs fois. Vous pensez que cette personne va dire plus de paroles justes, vraies, que de faux ou le contraire? Je vais vous faire un rapprochement. Une personne parle de la médecine sans avoir étudié. Pas une seule fois, plusieurs fois chaque jour. Et elle n'a pas étudié la médecine, ni ses fondements, ni ses bases. Cette personne se met à parler de la médecine chaque jour. Vous pensez qu'elle va faire elle va dire plus de choses justes que fausses ou le contraire? Vous savez tous qu'elle va se tromper plus qu'elle ne va dire de choses vraies. Qu'est-ce qu'une personne qui parle sans arrêt dans la religion d'Allah, sans jamais étudier ni la langue arabe, un verset de Surat al-Fatiha, peut-être qu'elle ne le comprend pas. Peut-être qu'elle n'est pas capable d'expliquer un verset de la Fatiha. Et après, cette personne prend l'initiative de porter sur son dos la lourde charge que les montagnes, les cieux, ont refusée. Écoutez ce verset de Surat al-Ahzab, les coalisés. À la fin de la surah, la dernière page de la surah. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal. Nous avons proposé la charge du dépôt aux cieux et aux montagnes. C'est Allah qui parle ici. C'est-à-dire le dépôt de la religion, la responsabilité de la religion. Fa'abayna an yahmilnaha. Les cieux et les montagnes ont refusé de porter ce fardeau. Wa ashfaqna minha. Ils en ont eu peur. Wa hamalaha al-insan. Et l'homme lui a pris cette responsabilité. Qu'est-ce qu'Allah dit pour terminer le verset ? Innahu kana zaluman jahula. Et certes, il est très ignorant et très injuste. Allah Azza wa Jalla a dit: "Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Sourate l'Exode, la dernière page. Allah Azza wa Jalla dit: "Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fendre par crainte d'Allah, tellement il est lourd." Et Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: "Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila." Sourate Al-Muzammil, la première page. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète alayhi salatu wa salam: "Nous allons te donner une lourde parole." Wa alaykum salam wa rahmatullah. Jibril alayhi salam vient voir le prophète dans la grotte. Il lui dit: "Iqra." Le prophète lui dit: "Ma ana biqari." C'est rapporté par Al-Bukhari, c'est le premier hadith. "Ma ana biqari." Je ne sais pas lire. Jibril, qu'est-ce qu'il lui dit? "Iqra." Le prophète lui dit: "Ma ana biqari." Je ne sais pas lire. Et Jibril lui dit encore une fois: "Iqra." Allahu Akbar. Le prophète ne sait pas lire. Et Jibril lui dit: "Lis, lis et lis." Vous avez compris l'importance de l'étude dans la religion d'Allah que les gens ont tant méprisé? Et aujourd'hui, malheureusement, nous vivons une époque où les gens sont tellement ignorants qu'ils font fuir les gens de l'apprentissage de la religion. On trouve des gens qui veulent rentrer dans le prêche, mais d'une manière qui n'est pas conforme à la sunna. Et c'est pourquoi tu vas voir cette personne faire plus d'erreurs que de paroles correctes. Pourquoi ? Parce qu'elle ne suit pas la sunna. Et on a des personnes qui disent qu'il ne faut pas apprendre la religion et qu'il ne faut pas l'apprendre en détail. Parce que plus on a de la science, moins on arrive à l'expliquer. Et je ne vous parle pas de choses imaginaires, je vous parle de choses que j'ai entendues. Malheureusement, cette personne a montré qu'elle ne lit pas la parole d'Allah. Car Allah, dans le Coran, dans Surat Taha, la dernière page, on n'est qu'avec les dernières pages, mashallah. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit: ô mon Seigneur, fais accroître ma science. Subhanallah. C'est la seule chose qu'Allah Azza wa Jalla ordonne à son prophète alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire de lui demander l'accroissement et le rajout dans le Coran. Lis le Coran du début jusqu'à la fin et tu vas t'apercevoir que Allah Azza wa Jalla n'ordonne qu'une seule fois à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer pour lui demander de lui faire accroître quelque chose, et cette chose c'est la science. Et après, des gens disent: il ne faut pas apprendre. Regarde tout ce que tu apprends dans une assise comme ça. Regarde le khayr que tu apprends, le Coran et la sunna, la baraka que tu en tires. Quelle différence il y a entre une assise comme celle-ci et une assise où les gens parlent dans la religion d'Allah juste parce qu'ils ont une bonne intention, mais sans être accompagnés de la méthodologie du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui apprend une connaissance doit la mettre en pratique. Ensuite, elle doit appeler les gens à cette dernière, principalement quand on parle des bases de la religion. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira, et vous le trouverez si vous voulez dans Riyad al-Salihin, dans le chapitre concernant la sincérité. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة. Dans l'autre version, il dit أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. Les premières personnes sur lesquelles on va attiser les flammes de l'enfer le jour de la résurrection seront trois personnes. Il dit, le premier, c'est un homme qui est mort dans la lutte. Il a lutté. En apparence, il a combattu, il était brave et courageux. Et il est tombé au combat. Allah tabaraka wa ta'ala fera vivre, fera venir cette personne. Il lui montrera le courage qu'il avait dans ce bas monde et lui dira, qu'est-ce que tu en as fait? Il dira, je l'ai utilisé pour lutter et combattre pour toi, ô Allah. Jusqu'à être tombé au combat, Allah lui dira, tu as menti. Tu l'as fait pour qu'on dise que tu es brave, et on l'a dit. Il ordonnera aux anges de traîner cette personne sur le visage et la lancer dans le feu. La deuxième arrivera, c'est un savant. Il a étudié la science et l'a enseigné. Il a étudié et l'a enseigné. Ensuite, il a appris le Coran et l'a récité. Allah lui dira, qu'est-ce que tu as fait avec tous ces bienfaits? Il répondra, oh Allah, pour toi j'ai étudié et enseigné et transmis le Coran. Allah lui dira, tu mens, tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es un connaisseur. Et on l'a dit, c'est-à-dire tu as voulu cette chose-là, aujourd'hui tu n'es pas lésé. C'est ce que tu as voulu, on te donne ce que tu veux. Mais tu n'as pas voulu autre chose que ça, tu ne peux pas avoir autre chose que ça. On le prendra, on le traînera sur le visage et on le lancera dans le feu. Et le troisième arrivera, c'est un homme qui était riche et qui faisait des dons. Allah lui dira, qu'est-ce que tu as fait de ces bienfaits? Il répondra, oh Allah, je n'ai pas laissé une voie dans laquelle tu aimes qu'on y dépense sans y dépenser pour toi. Allah lui dira, tu es un menteur, mais tu l'as fait pour qu'on dise que tu es généreux. Et on l'a dit, attrapez-le et jetez-le dans le feu. Ce hadith a été surnommé par les ulama al-hadith alladhi khawwaf al-ulama, par le hadith qui a suscité la crainte des savants. Et les savants, quand ils lisent ce hadith, ont la crainte d'Allah Azza wa Jal, car ils ont peur de faire partie de ces gens-là qui ont étudié la science et qui l'ont transmise avec une autre intention que celle qui leur était demandée. Donc, il faut apprendre, mettre en pratique, transmettre et prêcher. Prêcher à la vérité. Prêcher à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala encore une fois nous préserve de ce mal. Ensuite, le Cheikh Souleyman al-Ruhayli hafidhahullah ta'ala nous dit que celui qui apprend une science et qui l'enseigne mais qui ne la met pas en pratique, c'est une personne qui n'a pas voulu la satisfaction d'Allah. C'est une personne qui n'a pas recherché la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, nous avons une personne qui apprend la connaissance, qui la met en pratique avec des manquements. Allah, du laxisme. On ne dit pas de cette personne qu'elle n'a pas voulu la satisfaction d'Allah. Le Cheikh dit, cette personne-là a une faiblesse dans son intention. Son intention est faible. Il y a une base qui est bonne, mais il a besoin de remédier à ce problème. Donc tu apprends un bien, tu le mets en pratique complètement. C'est la preuve que tu as voulu la satisfaction d'Allah. Tu apprends un bien, tu ne le mets pas du tout en pratique, et pourtant tu le transmets. C'est la preuve que tu n'as pas voulu la satisfaction d'Allah. Tu apprends un bien, tu le mets en pratique de temps à autre. Tantôt tu le mets en pratique, tantôt tu le délaisses. C'est la preuve qu'il y a un manque dans ton intention, dans ta sincérité. Encore une fois, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de ça. Ainsi, le musulman a l'obligation d'avoir la science, de la mettre en pratique, et enfin d'y appeler les gens, d'y inviter les gens. Et vous allez voir l'importance qu'il y a de prêcher, mais de prêcher selon la méthode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh dit qu'il fait partie des malheurs qui ont touché cette communauté, le fait que des personnes entrent dans cet énorme domaine, qui est le domaine de l'appel à Allah, le domaine du prêche, sans pour autant avoir de connaissances nécessaires pour le faire. Et il dit que nous trouvons des personnes qui, il y a peu de temps, étaient dans l'égarement. Ensuite, on invite ces personnes à l'islam, ces personnes commencent à faire la prière, et on dit à cette dernière, lève-toi et parle. Et on tourne dans les mosquées, ou même si on ne tourne pas dans les mosquées, on dit à ces personnes, lève-toi et parle. Cette personne n'a aucune base de l'islam. Elle n'a aucune preuve pour parler dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et on vous parle de choses qu'on a vues, de choses qu'on a entendues. Des personnes qui se lèvent et qui ont l'audace de porter cette lourde responsabilité que les sahaba radiyallahu anhum, parmi eux certains, la fuyaient. Quand on venait à l'un d'entre eux le questionner dans la religion d'Allah, il avait peur de parler au nom d'Allah. Il avait peur de dire Allah aime ou n'aime pas ça. Allah veut ou ne veut pas ça. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait va poser la question au deuxième. On allait voir le deuxième, il disait va voir un autre. Il allait voir le troisième, jusqu'à aller voir le dernier. Quand il allait voir le dernier, il revenait voir les autres les uns après les autres et chacun disait c'est la même réponse que j'avais. C'est-à-dire qu'il connaissait la réponse aux questions. Il ne voulait pas la donner par peur de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les savants comme l'imam Ahmad, l'imam Malik, quand ils disent makruh, détestable, ça veut dire haram chez eux. Mais pourquoi ils ne disent pas haram? Ils ont peur de dire de prononcer le mot haram. Ils ont peur de prononcer le mot obligatoire. Ce sont des gens qui ont compris le but de la science, le but de la religion. Ils ont compris que la religion n'est pas un jeu. Ce n'est pas une question de se lever et de parler pour dire que on a fait, etc. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'as pas transmis ce que le prophète a dit, si tu lis un hadith et tu n'en comprends pas le sens, est-ce que vraiment tu penses? Est-ce que vraiment, si tu es sincère et tu aimes Allah Azza wa Jalla et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu passes du temps à lire des hadiths dont tu ne comprends pas le sens, à des personnes qui, eux, n'en comprennent pas le sens et qui souhaiteraient, qui aimeraient tant en comprendre le sens. Tu penses vraiment que tu as suivi la voie du prophète, alayhi salatu wa sallam? Qui a la réponse? Abadan, jamais. La voie du prophète, c'est la voie de l'apprentissage. Le prophète alayhi salatu wa sallam recevait des délégations de personnes qui venaient de contrées lointaines. Elles s'asseyaient avec lui et leur enseignaient la Fatiha, le sens de la Fatiha, les hadiths. Et aujourd'hui, on trouve des personnes qui prêchent depuis des années et qui ne connaissent toujours pas le sens de Ar-Rahman Ar-Rahim et qui ne savent pas faire la différence entre Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu Akbar. Pourquoi? Elles n'ont pas suivi la Sunna. Elles n'ont pas suivi la Sunna. Mais pourquoi elles ne suivent pas la Sunna? Parce que, chers frères, le chemin de la sunna demande de l'endurance, demande de la patience. Al-Sheikh Rabi ibn Hadi, rahimahullah, un grand savant de la Mecque, a dit « Le chemin de la sunna est un chemin qui est semé d'embûches, qui demande des hommes endurants, patients. Ils ne changent pas leur manière de faire, ils ne changent pas leur façon d'adorer Allah pour plaire aux autres. Non. » Ils font ce qu'Allah veut. Ils ne disent pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils disent aux gens ce qu'ils doivent entendre. Et ce n'est pas tout le monde qui va réussir à patienter sur ce chemin. Et les gens pensent que le résultat dans le prêche, c'est le fait d'avoir beaucoup de personnes devant toi. Ce n'est pas ça le résultat du prêche. Le résultat du prêche, c'est d'avoir prêché comme Allah te l'a ordonné. Et Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa lidhalika fad'u wastaqim kama umirt » Et ainsi, invite les gens à Allah et tiens-toi droit comme on te l'a ordonné. Donc tu n'invites pas comme tu veux. Tu ne suis pas le chemin que tu veux, mais tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jalla a dit: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Un verset qu'on connaît, que beaucoup de gens connaissent. Le sens du verset: appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec la sagesse, l'exhortation, la bonne exhortation, et débat avec eux, échange avec eux de la meilleure façon. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre le plan à suivre quand on prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, ud'u ila sabili rabbik. Retenez ça. Invite les gens au chemin de ton Seigneur. Est-ce que tu dois inviter les gens à te suivre ta personne? Est-ce que tu dois inviter les gens à suivre ton idée, à suivre ton groupe, à suivre telle et telle chose? toute personne qui appelle les gens à suivre sa personne, sa propre personne, à être fanatique d'une personne, d'un groupe, d'une méthodologie autre que celle du prophète alayhi salatu wassalam, est une personne qui est tombée dans le sectarisme. L'islam nous appelle à, nous invite à appeler les gens à la sunna. À quoi est-ce qu'on doit appeler les gens? Au chemin d'Allah, comme on le voit dans ce verset. On appelle les gens à ce qui plaît à Allah. Il ne prie pas, tu l'appelles à la prière. Il ne suit pas la sunna, il tombe dans la bid'a, tu vas le voir et tu le conseilles. Tu lui dis qu'il est dans l'erreur. Tu lui dis de revenir à la sunna. Il tombe dans le shirk, dans l'association à Allah Azza wa Jal, tu lui dis de quitter ce monde du shirk et de rejoindre celui du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu appelles les gens à croire en ce en quoi ont cru les pieux prédécesseurs, au sujet desquels le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari: khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivront, Et Allah Azza wa Jalla a aussi dit dans le Coran: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُ. C'est-à-dire, s'ils croient en la même chose à laquelle vous croyez, alors ils seront bien guidés. Allah Azza wa Jalla s'adresse aux Sahaba radiallahu anhum. Il dit que si les gens ont la même croyance que celle des Sahaba, alors ils seront bien guidés. C'est à ça qu'on doit, alaykum salam, c'est à ça qu'on doit appeler les gens. On ne doit pas faire comme certains font. Viens essayer et tu verras, tu trouveras une saveur. Ya akhi, la saveur, elle est dans le Coran et dans la Sunna. La saveur, elle n'est pas dans viens essayer et tu verras. La religion d'Allah n'est pas comme tu le penses. Elle est bien trop chère pour en faire un monde de tests et d'essais. On n'essaie pas dans la religion d'Allah. Et on ne se base pas sur nos ressentis. On essaye, ça nous a plu. Non. Est-ce qu'Allah a demandé? Si Allah te l'a demandé, sois le premier à le faire. Est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam l'a demandé? Si c'est oui, sois le premier à le faire. Et personne n'a le droit de l'interdire. Le prophète ne l'a pas demandé. Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas demandé. Ne sois jamais de ceux qui font des choses qu'on nous a pas demandé ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni les Sahaba. Des choses qui ne sont pas demandées dans l'islam, des innovations, sous prétexte qu'on a essayé et on se sent bien. Qu'Allah nous préserve de cet égarement. Allahu musta'an. Qu'Allah nous guide. Donc, voici la première chose. Nous devons appeler les gens au chemin d'Allah. Azza wa Jalla, c'est une condition. Deuxièmement, bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, huwa al-'ilm al-basira. C'est la clairvoyance et la connaissance de ce à quoi tu appelles. Car tu ne peux être sage que si tu as de la connaissance. Car la sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. C'est le contraire de l'injustice. Tu sais à qui parler, tu sais comment lui parler, tu sais quoi lui dire, à quel moment il faut lui dire. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Et toutes ces choses-là sont des choses qui sont le fruit de la science. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam et aux croyants qui veulent suivre son chemin: appelle les gens au sentier de ton Seigneur, appelle-les à Allah. Ne les appelle pas à ton expérience, à ton groupe et à toutes ces choses-là. Appelle-les à Allah, Azza wa Jal. Appelle-les au Coran, à la Sunna. Appelle-les à s'attacher à la voix des sahaba radiallahu anhum. Ensuite, fais-le avec hikmah, avec sagesse. C'est-à-dire avec connaissance, comme le dit le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Donc, personne ne peut avoir de sagesse sans avoir de connaissance. Car c'est l'ignorant qui se trompe. C'est l'ignorant qui se trompe, qui ne sait pas comment faire. Et ça, c'est le contraire de la sagesse. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit wal maw'idhati al-hasana, et avec la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et avec la bonne exhortation. Qu'est-ce que la bonne exhortation? Alaykum salam. La bonne exhortation, le Cheikh a dit: hiya khitabun nas bima yula'imuhum la bima yurdihim wa innama bima yula'imuhum wa yuslihuhum. C'est le fait de s'adresser aux gens avec ce qu'il convient de leur dire. Écoutez bien ça, wallahi, c'est très important. le fait de s'adresser aux gens, les gens que tu prêches ou à qui tu, les gens que tu invites à l'islam et à la sunna, à la voix du prophète alayhi salatu wassalam, de leur dire ce qui leur convient, non pas ce qui les satisfait. Wallahi, c'est très important de comprendre ça. Si tu médites sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tu vas voir que quand il s'adresse à ces gens à qui il, et ces gens qu'il appelle à l'islam, pour la plupart, il leur donne des choses qu'ils n'acceptent pas. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il s'arrête pour autant? Est-ce qu'il dit non, ils ne sont pas satisfaits, alors je vais changer. Je vais changer de méthode et je vais leur donner des choses qui vont leur plaire. Ensuite, une fois que je les ai attirés, je pourrai commencer à rentrer dans le vif du sujet. Non. Il a patienté, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit ce qu'ils n'aimaient pas entendre parce qu'il a dit ce qu'Allah lui a demandé de dire. Et c'est ça la bonne exhortation dont Allah parle dans ce verset. Donc le fait de s'adresser aux gens avec ce qui les réforme, ce qui est bon pour eux, même si eux ne le savent pas. Car la plupart des gens, à cause de l'ignorance, ne savent pas ce qui est bon pour eux, ne savent pas ce qui est mauvais pour eux. C'est pourquoi quand ils trouvent un prêcheur qui les appelle au Coran, qui les appelle à la sunna, qui les appelle à la vérité, ils, dans la plupart des cas, le dénigrent, l'accusent, disent qu'il est mauvais, disent qu'il ne veut pas du bien, alors que lui s'épuise pour la Ummah. Il s'épuise pour la communauté. Il apprend toute la connaissance pour leur transmettre la vérité. Il ne leur demande aucun salaire. Il n'a pas besoin d'eux. Et lui, il a sa connaissance. Il a sa connaissance. Et pourquoi est-ce qu'il se fatigue à transmettre alors qu'eux ne veulent pas? Parce qu'ils veulent la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça, le prêche qu'Allah nous a ordonné de mettre en pratique. Donc il dit que l'on doit s'adresser aux gens avec ce qui leur correspond, ce qui leur convient. Certaines personnes, il est bon de s'adresser à certaines personnes avec la douceur et avec al-wa'd, c'est-à-dire les promesses d'Allah, de lui parler du paradis, de lui parler de la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de lui parler du pardon d'Allah, de lui faire espérer davantage la miséricorde d'Allah azza wa jal. Et c'est ça qui est bon pour ces personnes. Alaykoum salam. Il y a d'autres personnes avec qui le discours doit être différent, mais on doit s'adresser à ces personnes avec le côté qui suscite la crainte d'Allah dans les textes du Coran et de la Sunna. Les textes relatifs à l'enfer, les textes relatifs au châtiment d'Allah, les textes relatifs à la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres personnes avec qui il est bon d'utiliser ces deux choses. Les textes relatifs, ou les textes qui font susciter l'espoir, et les autres qui font susciter la crainte d'Allah. C'est ça la bonne exhortation quand tu appelles quelqu'un Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc des personnes avec qui il est bon d'être doux. Et c'est comme ça que ces personnes vont accepter. Et d'autres personnes avec qui il est bon d'être dur. Et c'est comme ça que ces personnes vont accepter. Et cela, tu le vois dans la sunna. À titre d'exemple, le bédouin entre dans la mosquée. Il urine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient voir ce bédouin. Les compagnons viennent pour le réprimander. Peut-être même physiquement. Le prophète alayhi salatu wa sallam sait que pour cette personne, la dureté ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il dit? Laissez-le terminer. Il le laisse terminer dans la mosquée d'uriner. Et quand il a fini, il va le voir et lui dit, cher frère, ici c'est un endroit qu'il convient de respecter, c'est un endroit qui est propre, il ne convient pas d'y uriner. On y prie, on y adore Allah, on y évoque le nom d'Allah. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'endroit en invoquant Allah Azza wa Jal en la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui était bon avec lui. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dirige la prière avec les compagnons. C'est alors qu'il se met à réciter Suratul Baqarah, Surah qui est longue. Un des fidèles sort de la prière, la termine tout seul et s'en va. Abdullah ibn Mas'ud dit, cet homme-là est un hypocrite. L'homme dit, je vais aller me plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, ou messager d'Allah, j'ai beaucoup de choses à faire, et il a récité Al-Baqarah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a fortement réprimandé Mu'adh en lui disant « Afattanun anta ya Mu'adh ?»« Afattanun anta ya Mu'adh ?»« Es-tu un semeur de troubles, ô Mu'adh ?» Vous savez qui est Mu'adh ?« A'lamul ummah fil halal wal haram » Le plus savant des compagnons dans le licite et l'illicite. Regardez comment il s'adresse à un bédouin qui urine dans la mosquée. Regardez comment il s'adresse à un des plus savants et plus émérités compagnons. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne exhortation. La bonne exhortation, c'est de savoir comment parler. Allah tabaraka wa ta'ala envoie Fir'aoun et son frère Haroun. Envoie Moussa et son frère Haroun à Fir'aoun. Il lui ordonne de prononcer des paroles douces. Peut-être reviendra-t-il à Allah. Et Allah, c'est celui qui connaît l'avenir. Ne sait-il pas que Fir'aoun ne va pas accepter le prêche? Il sait. Il sait que Fir'aoun ne va pas accepter. Pourtant, malgré ça, il lui ordonne de lui prononcer des bonnes paroles. Pourquoi? Pour nous enseigner qu'avec certaines personnes, c'est la douceur qui est bon. Et avec d'autres personnes, c'est la dureté qui est bonne. À titre d'exemple, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du dialogue qui a eu lieu entre Moussa et Haroun, lorsque Moussa s'est en allé pour recevoir la révélation d'Allah Azza wa Jal, il est revenu, il avait confié la garde de son peuple à son frère Haroun. C'est alors qu'il a vu son peuple s'adonner à l'adoration du veau en or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé son frère Haroun, alayhi salam, par la barbe et par les cheveux. À un point, Haroun lui a dit « Yabna umma la ta'khudh bilihyati wa la bira'si » Il dit « Ô fils de ma mère !» Il utilise des paroles pour l'adoucir, pour l'attirer. Il lui dit « Ne m'attrape pas par la barbe et par la tête. » Et les savants ont dit, c'est-à-dire par les cheveux. Haroun avait une longue chevelure. Regardez comment Moussa s'adresse à Fir'aoun, le pire ennemi d'Allah, et regardez ce qu'il fait avec Haroun. Et Haroun, c'est un prophète. Ici, on t'enseigne « Al-hikmah wal-maw'idatul hasana fi da'wati ilallah subhanahu » wa ta'ala. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit wajadilhum billati hiya ahsan, et échange avec eux de la meilleure façon. Débat et échange avec eux, alaykum salam, de la meilleure façon. De la meilleure façon, c'est-à-dire avec le Coran et avec la Sunna, car c'est la meilleure façon de s'adresser à quelqu'un que de lui transmettre les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous a tracé la route à suivre pour prêcher Allah. Également dans un autre verset, le verset de sourate Yusuf, à la fin de la sourate, Allah azza wa jalla dit qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Ce qui veut dire, dit: voici ma voix, j'appelle à Allah, j'invite les gens à Allah avec clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent, exempt soit Allah, je ne fais pas partie du nombre des associateurs. Ici aussi, dans ce verset, il y a le mode d'emploi à suivre pour celui qui veut appeler Allah Azza wa Jal. Premièrement, قول, Allah Azza wa Jal dit au prophète de dire. Et dans cette parole du Coran, قول, il y a une grande importance. Et les savants, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah et d'autres ont dit qu'Allah Azza wa Jal dit au prophète de dire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ce terme dans le Coran et ne l'a pas effacé, comme certaines personnes dites des Coraniyun le font, ou certaines personnes qui disent qu'il faut enlever le mot qul du Coran. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui dit au prophète de dire. Et comme le prophète est mort, on n'a plus besoin de dire, de réciter la partie du verset qul. Et cette parole est un égarement, car il y a une éducation pour le musulman dans ce mot qul. C'est-à-dire qu'on enseigne au musulman que dans sa religion, il dit ce qu'on lui ordonne de dire. Il prononce les paroles qu'on lui ordonne de prononcer. Qul ay la aqulu illa ma amarani Allahu bil qawli bih. C'est-à-dire, je ne dis que ce qu'Allah m'a ordonné de dire. Hadhihi sabili. Ceci est ma voix. Voici la voix à laquelle tu dois appeler et la voix que tu dois suivre. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Quelle est la voix? Quelle est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'appelle à Allah, j'appelle aux ordres d'Allah, j'appelle les gens à ce qui est bon pour eux, j'appelle les gens à se réformer, j'appelle les gens à la sunnah, j'appelle les gens au tawhid, j'appelle les gens à la bonne croyance. Je n'appelle pas les gens à ce qu'ils veulent entendre. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils aimeraient bien que je leur dise. Je les appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne les appelle pas à un groupe, à une idée. Je les appelle au Coran et à la sunnah, à l'ordre d'Allah, à ce qu'Allah leur a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an, était un jour avec ses compagnons. Quand il a pris un bâton pour tracer un trait droit et long sur la terre, puis il a dit, « Hadihi sabilullah. » Voici la voie d'Allah. Ensuite, à la droite et à la gauche de ce trait, il a tracé plusieurs traits qui étaient plus petits que le premier et qui penchaient sur les côtés. Il a dit, « Wahadihi subul. » Et ceci sont des voies. « Ma min sabilin illa wa alayha shaytanun yad'u ilayha. » Il n'y a pas une de ces voies sans que n'y s'y trouve un diable qui appelle les gens à la suivre. Puis il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, « Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. » C'est-à-dire, « Et voici ma voie dans toute sa rectitude, voici ma voie droite, la voie de la sunna, la voie de l'islam. » Et ne suivez pas les autres voies, ne suivez pas les autres sentiers, ne suivez pas ash-shirku billah, ne suivez pas al-kufru billah, la mécréance en Allah, ne suivez pas al-bid'ah, l'innovation, ne suivez pas al-kaba'ir, les péchés majeurs, ne suivez pas as-sara'ir, les péchés mineurs, ne suivez pas ce qui est mauvais pour vous, ne suivez pas toutes ces choses-là, suivez la voie d'Allah Azza wa Jal. Car si vous suivez ces voies-là, elles vous disperseront de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tracé un trait droit et long. Ce trait, c'est l'islam. C'est le Coran et la sunnah. C'est un trait qui est droit. C'est le chemin d'Allah. Et en même temps, il est long. Donc, il demande à sabr. Il demande de la patience, à thabat, de la constance, de la fermeté. Ensuite, quand il a tracé les autres traits, les traits étaient plus courts et il penchait sur les côtés pour dire qu'il est plus facile de tomber dans les autres chemins, dans les autres voies que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient au verset de sourate Yusuf. Allah Azza wa Jalla a dit « Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira » dit « voici ma voie, la voie du prophète alayhi salatu wa sallam. » Quelle est cette voie? Ad'u ilallah, j'appelle les gens à Allah. C'est-à-dire, je les appelle à ce qu'Allah leur demande de faire. Je leur transmets ce qu'Allah leur a ordonné, ce qu'Allah leur a interdit. Je ne cherche pas leur satisfaction. Je cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui appelle à autre que le Coran et la Sunna, toute personne qui appelle à un groupe, qui appelle à une mauvaise croyance, qui appelle à faire des choses dans la religion d'Allah parce que les parents ont fait ou parce qu'on a essayé et on a aimé, toutes ces personnes-là n'appellent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le haq qu'il faut dire, c'est le haq qu'il faut transmettre. Car la religion d'Allah, elle est pure, elle est bien plus chère que de la gâcher et de la laisser poursuivre des autres chemins que la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ad'u ila Allahi ala basira. J'appelle Allah, la troisième chose, avec clairvoyance. Al-basira, la clairvoyance, vient du terme basar. Basar, c'est le fait de voir. Et al-basira, c'est le fait de voir correctement. C'est-à-dire que ce à quoi tu appelles les gens, tu l'as vu correctement, tu le connais correctement. Et les Arabes de l'époque, quand ils partaient à la chasse et qu'ils tuaient par exemple le lapin ou autre, quand ils tiraient sur le lapin avec leurs flèches, le lapin se sauvait, il saignait. Il était en train de mourir, mais il se sauvait. Donc, il laissait le lapin courir jusqu'à ce qu'il tombe. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait plus qu'à suivre la trace du sang pour arriver à l'endroit. Cette trace du sang, les Arabes l'appellent basira. Il l'appelle Basira, pourquoi? Parce que c'est l'indice qui te montre où est le lapin. C'est la connaissance qui te montre, qui t'indique où est le lapin. Eh bien, dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, on doit appeler les gens à Allah avec basira, avec clairvoyance, avec connaissance. Et parmi les pires des péchés, de parler dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans connaissance, d'appeler les gens à une chose qu'Allah n'a pas demandé de faire, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit « Ana wa manittaba'ani »« Moi et ceux qui m'ont suivi ». C'est-à-dire que les gens qui suivent cette voie véritablement et qui invitent les gens véritablement à cette voie, ce sont premièrement moi-même, le prophète, alayhi salatu wa salam, puis ceux qui m'ont suivi. Donc, ici, Allah Azza wa Jal nous enseigne le chemin à suivre pour appeler les gens à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et c'est une interdiction religieuse d'inviter les gens à un autre chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à parler dans la religion d'Allah sans connaissance. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « La ta'allamu l'ilma litubahu bihi l'ulama wa tujadilu bihi sufaha wa takhayyaru bihi l'majalis fa man fa'ala thalika fannar annar » Qu'Allah nous en préserve. Ne recherchez pas la science pour rivaliser avec les savants, polémiquer avec les faibles d'esprit, les ignorants, ou choisir les meilleures assises. Celui qui le fait, celui qui apprend la science pour une de ces trois choses, alors le feu l'attend, le feu l'attend. Wal'iyadhu billah. Donc, nous venons de voir les trois premiers points. Wujub ul-ilm, l'obligation d'avoir la connaissance religieuse. La connaissance relative à Allah tabaraka wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux bases de l'islam. Thumma al-amal bi. Deuxièmement, la mise en pratique de cette science. Thumma ad-da'watu ilayhi ala basira. Puis, le fait d'appeler les gens à cette science, à cette mise en pratique avec clairvoyance. Naktafi bi hadha. On s'arrête ici, inshallah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك